Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Vous écoutez Radio Silence et mon numéro 4 de la chronique économique Finance Vérité, dont le titre d'aujourd'hui me paraît devoir être L'inflation galope, les revenus plongent dans la misère. En effet, dans l'actualité économique, je relève qu'en ce début avril, les retraités vivent un moment sombre. Le pouvoir républicain assis sur la démocratie populaire, qui n'a rien à envier à ses devancières d'au-delà du défunt rideau de fer, vient d'oser l'innommable. Il vient d'oser augmenter les pensions de retraite de 1%. Il s'auto-absout de son escroquerie évidente en revendiquant un indice de prix de détail, pas des prix de détail, un indice de prix de détail dressé selon ses instructions par l'INSEE, qui fait apparaître une inflation de cet ordre. Les retraités qui ne touchent pas même le plancher du minimum vieillesse officiel de l'ordre de 850 euros vont devoir rejoindre les files d'attente des Restos du Cœur s'ils veulent espérer manger quelque chose au cours des mois à venir. La pauvreté, incidemment, descend les malheureux vers la misère. Comme tout ce qui se produit est forcément décidé quelque part par un politique, il ne paraît que trop clair que nos gouvernants ont décidé d'affamer le peuple avec le secret espoir que les vieillards vont se remettre au travail pour gagner leur soupe. Seulement voilà, dans le même temps, s'il y a des quotas de femmes, d'handicapés, d'Africains, de nègres obligatoires dans les entreprises et la fonction publique, il n'y en a pas de seniors. Donc, pas d'emploi pour les retraités. Donc, ils vont mourir de faim après s'être retrouvés sur les trottoirs. Quel beau gouvernement, quel beau chef de l'État nous avons là. Je peux vous préciser que mon épouse, dans mon cas personnel, ben, je le connais un peu mieux évidemment que ceux des autres, mais il ressemble tellement aux autres. Mon épouse vient de me faire remarquer que nous avions dépensé en février 2009 700 euros pour la seule nourriture du mois, à deux, alors qu'un an auparavant, il avait suffi de 500 euros, soit 40% d'inflation depuis un an, et donc 11 euros pour 1000 par jour. Et pourtant, on s'est serré la ceinture en produits achetés sur la période, je peux vous le dire. Donc, mon conseil patrimonial du jour s'oriente encore plus vers les valeurs refuge, plutôt que vers la détention de monnaie scripturale en euros dans les banques, ou la détention de billets en euros. Comme l'or a augmenté de 25% en un an et demi, de 100 à 125 environ, euros par exemple pour une pièce de 20 francs, et que la courbe ne cesse de se redresser vers un objectif d'au moins 1 100 $ l'once en 2009, soit encore 30%, et sans doute 2 000 euros d'ici à 10 ans, même seulement probablement avant, je vous conseille vivement d'augmenter la proportion d'or en pièces de qualité au nominal de 20 francs ou équivalent. Vous aurez aussi très certainement raison, mais peut-être seulement à moyen terme, de 2 à 10 ans, d'acheter des lingots et des pièces d'argent, métal, à un prix de l'once de l'ordre de moins de 10 euros actuellement. Cela fait des années et des années, plus de 20 ans, que je suppute une montée de plus de 15 fois supérieure à celle de l'or, car l'argent est sous-évalué. Cela se confirme de plus en plus actuellement. C'est reconnu par de plus en plus de chroniqueurs. L'ensemble de ces réajustements d'ici à 10 ans devrait amener l'argent à 150 $ et l'or à 3 000, soit 20 fois plus, donc cette fois en concordance avec les stocks naturels terrestres, de l'ordre de 1 à 20. Donc mettez dans votre mallette, en complément du disponible en billets livre sterling, dollars, yens et suisse franc, 10% en or et 10% en argent. Ce contenu devrait être non seulement garant de votre pouvoir d'achat dans la durée, mais même au-delà, tandis que détenir des euros en banque à 1,5% sur un livret A va transformer votre pouvoir d'achat d'une maison en celui d'une bicyclette, comme cela fut en son temps rappelé à VGE, ex-ministre des Finances, à l'époque devenu chef de l'État. Il n'a pas su quoi répondre. J'en arrive à vous parler de mon histoire de la monnaie dans son chapitre 4, et à vous dire comment, de tout temps, on impose une monnaie unique. Comme on l'a vu, le début de la généralisation de la monnaie dans les échanges, réservée dans l'Antiquité à la seule classe dirigeante, associée aux guerres, toujours grande dévoreuse de monnaie, aux conflits et désordres de toute nature, a provoqué le démarrage du cycle infernal dans lequel nous nous débattons toujours à notre époque. Celui de la carence de monnaie, insuffisance de liquidité, provoquant ipso facto les dévaluations en cascade de celle-ci. Même si cette dévaluation, généralement lourde, est assortie souvent, mais pas toujours, d'une légère réévaluation comme on l'a vu la dernière fois, en somme pour faire accepter la chose par le bon peuple qui n'y peut rien et qui subit, de nos jours sans plus rien comprendre. Nous reviendrons sur cet aspect à propos des années 60, dans une prochaine chronique. Revenons donc en plus 268 après Jésus-Christ, où 40 000 ouvriers extrayaient l'argent des mines de Carthagène, enrichissant au passage leurs maîtres, les chevaliers adjudicataires de la production. Il semble bien en effet que cette activité ait été la source de la fortune du temple, dépensée et au-delà, au point qu'un millénaire plus tard, Philippe IV le Bel n'arrivait plus à retirer le dépôt du trésor royal confié au temple. Mais la monnaie d'argent est supplantée par la monnaie d'or en cas de crise grave, que les Romains frappent alors comme les Grecs avant eux, car elle procure un pouvoir d'achat supérieur à poids égal au denier d'argent. Ce qui fait que de Gracchus, c'est-à-dire de moins 180 à moins 150 avant Jésus-Christ, à Sylla, celui qui est né en moins 138 et qui est mort en moins 78, qui furent tous deux généraux romains et hommes politiques, les troubles de Gracchus à Sylla, érodèrent la monnaie, comme je viens de vous le dire. L'or affluait alors par saccades au gré des conquêtes militaires. Ce besoin de monnaie ayant été de moins 70 Salluste à moins 44, l'une des meilleures raisons du Sénat romain pour s'approprier les Gaules extrêmement riches en or. À certains moments de pénurie de métal précieux, des lois furent votées dans l'affolement autorisant le règlement en bronze des dettes d'argent. Ceci est raconté par Cicéron, par Salluste, entre autres. De moins 23 sous Auguste, avec son Oréus, qui était égal à 1/45 de livre, à 476, chute de l'Empire romain, et malgré tous les avatars, la monnaie romaine fut universelle et imposa son denier d'argent dans tout le monde connu, de l'Europe jusqu'à l'Indus, qui constitue alors depuis Alexandre Ier la frontière naturelle de l'Occident avec l'Orient. Frontière au-delà de laquelle on se rappelle que les soldats d'Alexandre refusèrent de le suivre, bien qu'il ait seul franchi le fleuve à la nage et appelé ses soldats depuis la rive orientale, en vain. Il reste encore de nos jours des traces visibles de cette monnaie unique, le denier romain, dans les exploits d'huissiers en France, qui réclament le règlement des dettes en bon denier, et autour de la Méditerranée, bien des monnaies portent encore son nom comme le dinar, abréviation de dinarii. L'euro ne devrait pas durer aussi longtemps, lui dont le pouvoir d'achat nominal se dévalue plus vite que le papier dont il est fait ne brûle. Voilà, nous verrons la prochaine fois dans le chapitre suivant pourquoi trop d'impôts tue l'impôt. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.